Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on vous explique comment ne jamais perdre en compagnie de...
Alex.
Roman.
Samuel.
Et moi-même, Jean-Philippe. Donc sur ce, bonne écoute.
Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.
Je le lance. All right. J'ai eu une conversation très récemment avec quelqu'un et j'ai réalisé que la majorité des gens, en fait, réalise pas souvent que les statistiques sont souvent contre eux lorsqu'il s'agit du trading et un peu moins, mais aussi quand il s'agit d'investissement. Les gens réalisent pas que juste le fait de miser de l'argent avec un certain stop loss à n'importe quel prix, sans confirmation, il y a beaucoup de risques derrière. Dont la raison pourquoi on voulait créer cet épisode où on dit comment ne jamais perdre. Bien évidemment, ça n'existe pas. N'importe quel meilleur joueur dans le monde, n'importe quel meilleur investisseur dans le monde a déjà perdu de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de vous positionner dans une position plus profitable de ce que la majorité des vidéos YouTube ou podcasts vont vous aider à faire. Une des façons que moi, comment est-ce que je le vois, c'est avec la bonne gestion de risque, le bon retour d'investissement. Je lis un livre en ce moment où il y a un multimilliardaire qui a réussi sa carrière en faisant un 5 pour 1. Ça veut dire pour chaque dollar risqué, il va aller chercher un minimum de retour d'investissement de 5 dollars. Fait la même chose pour 10, il veut 50, pour 100, il veut 500, etc., etc., etc. Mais j'ai réalisé à quel point c'est puissant juste cette notion-là et que la majorité des gens ne le réalisent pas. C'est en fait, tu peux être poche en trading. Même tu peux être poche avec tes investissements, mais juste le fait de garder ça, à un moment donné, tu vas être profitable.
C'est parce que quand tu trades, il faut réaliser que quand tu trades, tu rentres dans un marché qui est fait pour que tu perdes. Et ça, c'est le plus grand défi que la plupart des gens ne réalisent pas. Ils vont trader, surtout des gens que ça fait un petit peu plus longtemps, même investir, mais je vais utiliser le terme trader pour rester... pour aujourd'hui, ils vont trader et ils vont se dire « Ok, si je veux plus de gains, il faut que je fasse plus de trades. » Mais faire plus de trades, ça veut aussi dire prendre plus de risques. C'est comme si maintenant tu as une armée et tu essayes d'envahir, comme on est dans les années, dans le Moyen-Âge, tu essayes d'envahir une ville et tu te dis « Je vais envoyer avec mon armée leur faire plus de combats. » Mais plus ils vont sur le champ de bataille, plus ils risquent de mourir, plus tu risques de perdre des hommes. Et c'est là où les gens doivent complètement changer leur perception. Au lieu de se dire « je dois faire plus de trades pour avoir plus de gains », ils devraient se dire « je dois faire moins de trades pour enlever les mauvais trades ». Et moi, je le dis toujours, la première chose que tu veux faire, c'est pas faire plus de trades pour avoir plus de bons trades, c'est couper les mauvais trades. Parce que si maintenant j'ai 8 trades de bons sur 16, ok, c'est cool. Mais coupe-les, si maintenant tu arrives à 6 trades de bons sur 10, les gens vont me dire « ouais, mais j'ai eu 6 trades sur 10, alors qu'avant j'avais 8 trades de bons. » Ah, mais tu avais 8 sur 16, là tu as 6 sur 10. Tu viens de passer de 50% à 60%. Mais ce 10%-là, ça fait une énorme différence, surtout si tu es en train d'utiliser des ratios de 1 pour 5 et tout ça. Et c'est là où les gens doivent réaliser que quand tu trades, le marché est fait pour te faire perdre. C'est ça que les gens doivent comprendre. T'es pas dans un marché... On dirait que les gens essayent de rentrer dans le marché et se dire « Ok, j'ai un marché où les probabilités sont contre moi. » Peut-être que même la plupart des gens ne le réalisent pas. Et ils se disent « Ok, comment est-ce que je peux gagner dans ce marché difficile ?» Alors que la vraie question que tu devrais te demander, c'est « Comment est-ce que je peux gagner même si je perds dans ce marché qui est fait pour que je perde ?» Parce que la réalité, c'est qu'au lieu de te concentrer à essayer de gagner dans le marché, ce qui veut dire potentiellement battre le marché, ce que tu devrais dire, c'est si je sais que je suis dans une situation, si je sais que dans cette salle ici, tous les odds, toutes les probabilités sont contre moi, comment est-ce que je peux être ici, savoir que je vais perdre la plupart du temps, mais quand même gagner? Et c'est là où des ratios comme ça de 1 pour 5 et tout changent toute la game. Parce qu'à la fin de la journée, c'est littéralement comme si tu regardes du baseball à haut niveau. Tu sais, tu regardes du baseball à haut niveau, puis tu vois un gars qui lance une balle, puis l'autre qui la tape. Mais si maintenant tu es capable de jouer au baseball professionnel pour les Yankees et de taper la balle 3-4 fois sur 10, tu vas être un des joueurs les mieux payés de tout la ligue professionnelle. Tu vas faire des dizaines de millions par année. Tu vas être un des sportifs les mieux payés dans le monde. Pourtant, tu tapes la balle juste 30% du temps. Ça veut dire que 70% du temps, tu es en train d'échouer. Oui, mais c'est normal parce que tu contrôles pas la vitesse de la balle, tu contrôles pas l'angle, tu contrôles pas à quel moment elle est lancée. Et toi, ce que tu essaies de faire, c'est avec ton petit bâton, taper une balle qui est lancée par quelqu'un qui lui aussi se fait payer des millions pour s'assurer que tu la touches pas. Et les probabilités sont de son côté. Il la lance à sa vitesse, dans son angle, au moment qu'il veut. Ici, tu as quelqu'un qui est payé des millions pour lancer la balle quand il veut pour pas que tu la touches. Les probabilités sont contre toi. Et c'est pour ça que si tu la touches 3 fois sur 10, tu vas être un des meilleurs joueurs et tu vas te faire payer des millions. Mais il faut réaliser que le marché, c'est comme une game de baseball. C'est pas toi qui lance la balle. Les probabilités sont pas de ton côté. Sur comment est-ce que je peux quand même tourner ça pour que même si je perds 70% du temps, je gagne. Et quand on arrive avec des ratios comme Romain parle, des 1 pour 5 et plus, même 1 pour 4, vous réalisez que 1 pour 4, ça veut dire qu'en perdant 75% du temps, je suis break-even. C'est insane. Ça veut dire que tu peux littéralement avoir fait 1000 trades dans ta vie, en avoir réussi seulement 300 et être en gain. En bon gain. C'est insane. Ouais. Pourquoi? Parce que tu mets les probabilités de ton côté, parce que tu comprends que tu es dans un marché qui n'est pas là pour toi.
C'est quand même drôle parce que tu as passé de l'exemple de la table de poule, de la table de billard au baseball maintenant.
Mais la table de billard, ça, c'est la manipulation, c'est quelque chose d'autre. Mais si tu veux, je peux commencer.
Par contre, c'est une notion vraiment importante, surtout pour les nouveaux. Je trouve qu'avec l'expérience, tu améliores tes confirmations, tes entrées, tu vas optimiser ton stop loss, tes take profit, etc. Tu vas grandir, tu vas apprendre, tu vas développer tes compétences. Mais au début, juste en appliquant ces notions-là, il faut comprendre que quand tu rentres dans le marché, tu as deux choix. Achat, vente, c'est 50-50. Par contre, c'est 50-50 pour un investisseur qui va juste injecter de l'argent. Nous, les traders, souvent, on fait quoi? On met des stop loss pour éviter que nos comptes soient cramés ou éviter de over-leverage et tout ça. On veut respecter un certain risque. Alors déjà, en mettant un stop loss, tu enlèves ce 50% de chance de réussir. Tu le tombes à peut-être 20%, 10%, 25%, peu importe c'est quoi. Alors, sachant cette information, si tu veux rester profitable, et même si tu n'es pas bon, ou même si tu es nouveau, tant que tu as un bon risk to reward, une bonne en fait récompense par rapport à ton risque, tu vas être bien.
Comme ça me disait un peu aussi, attendre, oui, 5 pour 1, mais attendre les bonnes shots, avec des bonnes confirmations, parce que au final, même si tu as 5 pour 1, mais tu rentres trop souvent sur des opportunités qui sont mauvaises ou que tu n'as pas assez de confirmations, tu pourrais finir par être perdant parce qu'au final, tes confirmations sont pas tant là, puis tu essaies juste de rentrer souvent pour aller chercher ton 5 pour 1, mais...
Puis ça revient à l'exemple du baseball. Si tu as déjà regardé un joueur de haut niveau jouer au baseball, il n'est pas en train de swinger sa batte à chaque fois. Là.
Non, c'est ça.
Des fois, tu vois, la balle passe puis il ne bouge pas. Il y a une autre balle qui passe puis il ne bouge pas. Il attend le bon moment pour la swinger. So, en plus que tu viens mettre les ratios de ton côté, tu attends le bon moment aussi. Comme un joueur de baseball, même chose. Il n'est pas là non-stop, sinon il ne va plus sentir son épaule avant la fin du match. Ouais, c'est fini, il n'y a plus d'épaule, le gars. Là.
Ouais, c'est ça. comme dans le marché, tu vas être fini.
Avant même que c'est commencé.
C'est drôle parce que j'allais dire, ça, en fait, à la fin de la journée, c'est pas nécessairement un jeu de trading, c'est un jeu de risque. Et quand j'ai dit jeu de risque, ça m'a ramené à quand on jouait au risque ensemble. Et moi, d'antan, j'étais beaucoup plus impulsif qu'aujourd'hui. Et je prenais des décisions comme « let's go, on va conquérir, on va être les meilleurs », qui est un bon mindset. « Let's go, on va conquérir ». Mais déjà, statistiquement, mes chances étaient contre moi. Je vous mets en contexte. Samuel se renforçait ses propres pays. Puis moi, je disais « ah, c'est cool, j'ai exactement le même nombre de soldats. Je vais aller l'attaquer, je vais conquérir son pays ». Première des choses, déjà là en partant, les chances sont contre moi parce qu'on a exactement les mêmes dés, on va jouer à nos chances, mais quand tu es défendant, tu as plus de chances de gagner que celui qui attaque.
Si tu fais le même chiffre, c'est la défense qui gagne.
Puis deuxième point, c'est quel est ton retour d'investissement derrière? Parce que si tu es au point de perdre 5, 6, 7 soldats sur 10 pour envahir un pays, mais en envahissant ce pays, tu as peut-être juste un bonus de un soldat de plus. Est-ce que le retour d'investissement valait la joie? Ça revient aux mêmes choses au trading. Tu es au point de prendre un trade. Déjà, statistiquement, c'est contre toi. Mais est-ce que le retour d'investissement vaut le risque pour que tu mettes cet argent de ton capital, en fait?
Et les gens, on dirait, ils calculent pas ça. Puis j'aime ton exemple du jeu de risque. Mais je ne veux pas trop aller là-dedans parce que sinon je ne vais plus arrêter de parler. Mais des fois, il faut regarder.
Tu arrêtes des fois de parler?
Ouais, ça m'arrive.
Ah, okay.
Quand je dors. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas pour répondre à la Nice. Mais le jeu, si les gens voyaient plus le marché comme un jeu. Puis j'ai déjà entendu quelqu'un que je respecte, là, et on me connaît, peut-être qu'il écoute les podcasts, qui dit il ne faut pas voir le marché comme un jeu. Le trading et l'investissement, ce n'est pas un jeu. Puis je comprends dans le sens qu'il disait, parce qu'il disait plus aux gens. Comme, prends-le sérieusement et professionnellement, arrête de niaiser. Mais quand tu vas plus loin que ça, c'est genre, oui, prends-le professionnellement et sérieusement, mais c'est un fucking jeu.
Ouais.
C'est un jeu. C'est un jeu où tu dois calculer comme si tu jouais aux échecs ou au risque. Et c'est drôle parce que j'ai joué au risque récemment aussi. Mais quand tu joues à risque, justement, tu dois te poser cette question. Est-ce que je vais aller étendre mes soldats pour finalement pas avoir grand-chose? Parce que première chose que tu sais, puis les premières fois que Roman a joué avec nous, c'est ça qui arrivait. Il était là, puis il attaquait. Puis qu'est-ce qui se passait? Il allait chercher 2-3 territoires. Et après, il se faisait complètement défoncer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu t'es trop affaibli. T'as pas pensé au prochain coup. Puis on dirait les gens, quand ils tradent et ils investissent, ils pensent pas au prochain coup. Ils regardent maintenant qu'est-ce qui se passe. Ils ne pensent pas au prochain coup, aux prochaines choses, à qu'est-ce qui peut arriver, aux conséquences, positives ou négatives. Conséquences, je ne le dis pas péjorativement, hein, ça peut être positif ou négatif. Et en fait, pour moi, le marché, c'est un jeu, c'est une lecture. Quand tu joues à risque, là, tu connais les règles. Mais il n'y a pas de stratégie pour jouer à risque. Tu sais pourquoi il n'y a pas de stratégie? Parce que si tu fais toujours la même chose, je vais te défoncer. Parce que je sais exactement ce que tu vas faire. Comme mon petit frère, il prend toujours l'Australie. Qu'est-ce que je fais? Je le fais niaiser là-bas pendant je sais pas combien de tours, je conquillerai, je le défonce. Mais le marché, tu réalises qu'il y a des choses comme Aladdin, qui sont des logiciels d'intelligence artificielle, ils savent exactement ce que les gens font tout le temps. Sauf quand tu arrives sur stratégie, tu peux avoir un plan, mais à la fin de la journée, c'est une lecture. Parce que tu sais pas où tu vas commencer, tu sais pas qu'est-ce que les autres vont faire. J'ai aucune idée. Moi, quand je joue, si Roman il décide de finir par commencer à prendre le Japon puis attaquer l'Asie, you don't fucking know. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais les règles et tu sais lire le jeu. Lire qu'est-ce qui se passe devant toi pour t'adapter. Et le marché, c'est la même chose. C'est une lecture. Tu connais les règles et tu lis. Le marché, c'est pas une science. C'est un art. Mais un art, ça veut pas dire qu'il y a pas de règles. La littérature, c'est un art. Pourtant, il y a des règles. Si vous parlez français, vous le savez qu'il y a des règles. En tabarouette, il y a des règles quand tu écris. Mais ça n'empêche pas que même s'il y a des règles, c'est un art. Ce n'est pas une science. Quand tu lis, tu sais que tu lis de gauche à droite, de haut. Il y a des règles, mais c'est un art, pas une science. Tu n'as pas besoin de savoir les prochains mots. Quand ils vont arriver sous tes yeux, tu vas être capable de les lire. Mais tu peux déjà penser, ah, l'histoire va peut-être être ça. Mais les gens, ils viennent puis ils essaient d'avoir leur stratégie mathématique de je sais pas quoi, bro, comment.
Mais ça marche pas, puis de toute façon, ça te prend une capacité d'adaptation. Fait que donc, exact. Tu sais, t'arrives, tu lis le marché, mais justement, en lisant ce marché-là, même si tu dis, OK, ben je vais faire telle et telle chose parce que je me base sur entre guillemets, cette stratégie ou ma stratégie, mais faut que tu sois capable de t'ajuster en fonction des prochains mouvements puis des choses qui peuvent arriver.
Parlons de risque, non seulement du côté perdant, mais aussi du côté gagnant. Et je sais qu'Alex voulait parler un peu sur ce côté-là. Ouais,
Alex, parle, Alex.
Ouais, allez, parle. Même, présente-toi. Alex, ouais. C'est même pas présenté.
On est
podcast,
juste parti. Excuse, Alex, excuse.
Je voulais dire une chose aussi. Tu sais, tu disais, la majorité du monde savent lire le marché, mais ceux qui le contrôlent vraiment en arrière, c'est les institutions qui ont genre des outils pour littéralement voir le nombre de, mm-hmm. de stop-loss puis de mm-hmm. voir exactement sortir le monde à tel ou tel niveau. Là. Mm-hmm.
Puis les gens qui croient pas à ça, là, juste une parenthèse, bro, tu mets ton stop-loss sur ton broker, le broker, s'il a des ordinateurs et des serveurs, si tu mets ton stop-loss sur mon broker, alors le broker peut savoir sont où les stop-loss, non? C'est là que tu vois ce que je veux dire, les gens qui sont comme « Ah, mais non, c'est pas vrai, tout ça. » Mon ami, tu mets ton stop-loss sur un broker. Ce broker voit ton ordre. Il voit donc ton stop-loss et il voit donc tous les stop-loss de tout le monde. Il sait donc elle est où la moyenne des stop-loss. Ces brokers, ils appartiennent à qui? Des grandes institutions. Donc déjà, si tu prends une grande institution et qu'elle a 7 ou 8 des plus gros brokers, elle sait la moyenne des niveaux de stop-loss. C'est tout.
Je pense qu'une d'entre eux s'appelle Learn and Earn.
Mais nous, on fait juste frapper les TP. Nous.
Parlons du côté positif aussi, parce que ce risque-là, tu le prends non seulement quand tu es déjà en perte ou tu payes des commissions et tout juste dès le départ, mais on va dire tu es déjà gagnant. Imagine, tu viens de flip un portfolio de 20 000 à 100 000, puis Bitcoin est en train d'exploser ses all-time high, les altcoins sont en train de péter aux frettes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant par rapport à ce risque-là? Parce que c'est un jeu de risque, mine de rien, même si tu es gagnant.
Mm-hmm. Ah, c'est ça, exact. Ben, je vais commencer par me présenter un peu.
En plein milieu du, plein milieu du podcast.
Avant de commencer à parler plus, parce que là, personne ne sait je suis qui, mais je viens de commencer à travailler avec toute l'équipe Crypto Podcast puis Learn and Earn Academy. Fait que je m'occupe du marketing, du groupe Facebook aussi, entre autres. Fait que ceux qui nous écoutent, qui veulent avoir de la belle information sur le trading, la formation gratuite puis les lexiques, quoi d'autre, les lives de Sam le samedi. Venez dans le groupe, c'est vraiment un super endroit pour apprendre tout ce qu'on vient de parler là, mais autrement, ouais, c'est ça, de ce que Roman parlait, moi, de mon expérience, j'ai rentré en 2020 dans le marché des cryptos, puis bull market qui commençait. Dans un bull market, t'as pas nécessairement besoin de connaissances pour faire de l'argent. En théorie, là, mettons durant le bull market, c'est t'as besoin de connaissances pour sortir vraiment réaliser cet argent-là, mais mm-hmm. en théorie, si tu fais juste acheter puis attendre, tu vas voir ton portfolio monter, mais la question, c'est justement quand est-ce que tu sors.
Jusqu'à où t'attends. Hein?
Jusqu'à où t'attends, c'est ça. Puis quand tu dépasses justement, tu sais, là, Bitcoin en ce moment, on est comme au dernier all-time high. Après ça, il n'y a plus de point de repère, tu sais. Puis je pense que c'est là que le monde se perde. Puis moi, je m'étais perdu là-dedans aussi parce que là, je faisais juste suivre sur Twitter, sur YouTube, whatever. Bitcoin s'en va à 100 000, 200 000, 300 000.
Ouais.
Fait que, tu sais,
OK, OK.
C'est ça. Puis, tu sais, oui, t'en prends puis t'en laisses. Puis c'est ça que je faisais aussi. Mais on dirait que dans ma tête, ça allait dépasser au moins le 100 000. Fait que je suis tout le temps resté dans cette mentalité-là durant le bull market. Puis même j'avais des gros holdings sur des altcoins qui avaient fait du 1000%. Mais vu que je me disais que, ah, il y a quand même des fortes probabilités que Bitcoin touche 100 000 parce que plein de monde en parlait, puis ça aurait pu arriver, mais tu sais, finalement, c'est pas arrivé.
Mm-hmm.
Puis là, même chose en ce moment, là, on a un prochain bull market qui commence. Puis justement, il y a plein de monde qui vont juste regarder les nouvelles, ce qu'ils disent sur Twitter, whatever.
C'est des chiffres psychologiques. Il y a des chiffres psychologiques comme ça qu'il n'y a aucune raison. C'est littéralement des niveaux psychologiques.
Mm-hmm.
Tu peux regarder quelque chose, les niveaux psychologiques, 10$, 15$, 20$, Bitcoin, 80 000, 100 000, 130 000, 150 000. C'est comme, c'est des... Il n'y a aucune fucking raison derrière.
Surtout le
100 000,
c'est psychologique.
C'est
là,
psychologique
de dépasser ça.
Les 99 999. Ouais. Grande mèche de 25 000 $.
<C'est ça. rire> Puis ça, ça pourrait tellement arriver, ça, là, ouais, parce que justement, le monde sont tellement rattachés à dépasser ce fameux 100 000-là.
C'est ça qui devient dangereux quand les gens ont des stratégies ou mathématiques ou qu'ils se créent une idée comme précise que ça doit être ça et des confirmation bias autour de ça. Et justement, c'est là le danger des stratégies puis des confirmations, comme tu le dis. C'est parce que les gens sont plus en train de lire le marché. En fait, lorsqu'ils ont tort, c'est pas comme... Par exemple, imagine, tu lis t'es en train de lire un article dans le journal, puis tu lis mal un mot. Est-ce que tu vas te fâcher? Oh man, j'ai mal lu le mot. Non, tu vas juste le relire bien dans ta tête. Tu vas même pas y penser. Mais quand t'as une stratégie où tu résous un problème mathématique et que tu te trompes, c'est comme... Oh non, je peux pas me tromper. Tu vois, c'est ce genre d'erreur que les gens ont de la misère à accepter, l'ego embarque. Quand les gens ont une stratégie claire ou quelque chose qu'ils pensent de clair, c'est plus une lecture, c'est même plus, c'est plus neutre. En fait, si ça fonctionne pas, c'est eux qui, c'est leur stratégie qui fonctionne pas. Ça devient extrêmement psychologique sur le fait que tu veux pas accepter. C'est comme, shit, je me suis trompé, j'ai eu tort.
Accepter la défaite.
Exactement, parce que là, c'est comme, non, tu t'es trompé. Je t'ai donné une formule mathématique, t'as pas bien résolu le problème, tu t'es trompé. Mais si t'es en train de lire, puis tu te trompes dans un mot, tu t'en fous, tu vas juste le continuer. C'est là où le marché, c'est pour ça que tu dois lire. Quand t'arrives avec des stratégies ou des choses comme tu dis que 100 000, c'est même plus une question d'avoir raison ou tort. C'est genre l'ego, là. Tu vas jamais être capable d'avoir la bonne opinion parce que présentement, c'est même plus tu veux avoir raison ou tort. Tu veux satisfaire le fait que t'avais raison. En tout cas, ça devient très dangereux.
C'est quelque chose qu'on a commencé à faire à travers les différents livres puis différents mentors qu'on a eus à travers des conventions, c'est à se demander des questions différentes que d'habitude. Souvent, quand tu commences dans le trading, c'est quoi les différentes questions que tu peux te demander? C'est, OK, où est-ce que je peux rentrer? Où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Où est-ce que je peux prendre des profits? OK, qu'est-ce qui se passe si ça va là? Qu'est-ce qui se passe si ça va là? C'est pas mal des questions au premier niveau. Mais qu'est-ce qui se passe si tu commences à tranquillement demander des questions au deuxième niveau, au niveau que potentiellement les traders d'habitude ne se demandent pas? Par exemple, est-ce que moi j'ai envie d'avoir raison? Le fait que je mets mon trade en achat, est-ce que je veux avoir raison? Le marché s'en fout qu'il a raison ou pas. Et toi aussi, je pense que tu t'en fous si tu veux avoir raison ou pas, c'est est-ce que tu vas faire de l'argent? Moi, j'aimerais avoir toujours tort, mais toujours faire de l'argent, tu comprends? J'ai pas besoin d'avoir toujours raison, tant que mon compte bancaire, tant que mon compte trading, mon portfolio continue d'augmenter. Mais c'est quelles sont les différentes questions qu'on peut se demander? OK, j'ai un trade en ce moment dans une direction. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Ou est-ce qu'il y a... est-ce que je peux demander une perception à quelqu'un d'autre qui a le même niveau, plus de succès que moi? Qu'est-ce qu'il pense par rapport à ça? Ou peut-être demander à quelqu'un qui est même à un avis opposé. Moi, par exemple, je suis sur un achat, je pense que ça s'en va pour 100 000, mais il y a quelqu'un qui a aussi le même niveau de succès qui dit « Ah, moi, je suis en vente en ce moment. » Puis c'est d'échanger cette information-là pour voir d'autres types de perceptions et se demander d'autres types de questions qu'on ne s'est jamais
demandé. Puis en mode mastermind, pas en mode débat.
Ouais, 100%.
Parce que sinon, ça ne sert à rien.
Ça fait une grosse différence, là, parce que mastermind puis débat, c'est vraiment pas la même chose.
La plupart des gens, quand ils parlent de quelque chose, encore une fois, c'est pas pour ressortir avec une meilleure perception. C'est pour ressortir avec un gagnant, un perdant.
Non, c'est pas vrai.
Je t'ai comme... Mais tu sais, comme tu regardes des trucs politiques, les deux personnes commencent à parler de leur politicien préféré, ils sont pas en train d'échanger sur qu'est-ce que l'un fait mieux ou qu'est-ce que l'autre fait moins bien, puis d'être comme, ah ouais, j'avais pas vu ce côté-là de ce gars-là, c'est vrai. Ah ouais, moi j'avais pas, c'est vrai, t'as raison. Non, les gens, ils sont pas en train de faire ça. Les gens, ils sont en train d'essayer de convaincre l'autre qu'ils ont raison, que ce politicien-là est meilleur. Ils sont pas en train d'essayer d'écouter pour avoir une meilleure perspective des deux personnes. Ils sont en train d'écouter juste pour pouvoir... Ils sont pas en train d'écouter, ils sont en train d'entendre. Entendre juste pour pouvoir répondre, pour pouvoir convaincre l'autre. So, c'est extrêmement dur d'avoir un mastermind à ce niveau-là. Parce que les gens encore là, ils sont pas en train de mastermind. Ils sont en train d'essayer d'avoir raison puis de convaincre l'autre.
En tout cas... Mais même, j'ai quelque chose par rapport aux algorithmes là-dessus. Là. Tu sais, là, le monde qui se forme sur YouTube et tout ça. L'algorithme va te présenter probablement des choses qui valident le point de vue que tu as. Mm. Fait que si tu regardes des vidéos de Bitcoin, c'est que du positif, ça s'en va à telle affaire, tu vas moins voir de trucs négatifs par rapport à ça.
Mm-hmm. Ouais. Je savais pas ça.
Ça va aller feed ce que tu t'intéresses. Les algorithmes, c'est fait comme ça. Fait que si tu priorises quelque chose, ben il va te montrer plus de trucs comme ça parce que anyway, tu t'intéresses à ça. Mm. Il va pas te montrer quelque chose qui est l'opposé puis te dissuader d'écouter YouTube encore et encore. Mm. Fait que justement, par rapport au trading, investir, tout ça, si tu regardes YouTube, ben tu as plus tendance à... Tu vas juste voir des vidéos qui visent à confirmer ce que tu crois déjà.
Ce qui vient renforcer ton biais de confirmation.
100%. Mm-hmm.
Ouais. Ça vient juste dans...
C'est ça.
Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle confirmation bias, qui est psychologique, que tous les êtres humains ont, mm-hmm. Dans tous les aspects, mais surtout dans le trading et dans l'investissement, ça se voit beaucoup. Ou, par exemple, si moi, je pense que tous les chiens sont méchants parce que je me suis fait mordre, mais je vais trouver ces situations-là. Mon cerveau qui veut me faire survivre va me dire « Ah, lui, il aboie, lui, il bave, lui, il a l'air méchant. » Et si je pense que tous les chiens sont les trucs les plus gentils du monde et à chaque fois que j'en caresse un, je vais faire minimum 100$ les 30 prochaines secondes.
Ou une méga crise d'allergie.
Ouais, mais je vais chercher des chiens partout puis ils vont tous avoir l'air gentils. Mais le cerveau vient créer ces liens. Et dans le trading, justement, c'est extrêmement intéressant parce qu'on en parle souvent de confirmation bias, mais ça veut dire que si tu es en train de regarder Bitcoin 100 000 et que YouTube fait juste feed des vidéos sur Bitcoin 100 000, mais en fait, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train de te renforcer dans ton billet de confirmation que Bitcoin va à 100 000. Et alors, c'est comme ça que... Ou à l'inverse, peut-être quelqu'un qui check Bitcoin va à 20 000, mm-hmm. puis ça lui fait juste le feed du Bitcoin va à 20 000, ben ça renforce son biais de confirmation que Bitcoin va à 20 000. Et là, ensuite, t'es comme super fort dans ta croyance que Bitcoin va... Que ça va être... que ça va monter ou que ça va descendre. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est on s'en bat les couilles si ça monte ou ça descend. Arrête d'être bullish ou bearish. Sois opportuniste. Mm. Moi, je m'en fous. J'essaye pas d'être bullish, j'essaye pas d'être bearish. Moi, je suis un opportuniste. Montre-moi où je peux faire du cash. Mais pour ça, tu dois être neutre. Alors, c'est super, super intéressant ce que tu partages par rapport à ça.
Mais ouais. C'est difficile d'être neutre, par exemple. Surtout si c'est ton premier bull market. Là.
Ouais.
c'est pratiquement impossible. Pour vrai, là, à moins que tu sois là à coacher quelqu'un puis que tu l'accotes dans le mur à chaque jour, disais non, fais pas ça, mais. T'es comme, tu vires fou un peu. En tout cas, moi, c'est ça que ça m'a fait, là, le premier bull market. Je veux dire, je voyais des fois, je tradais même pas. Je faisais juste investir, puis j'attendais que ça monte. J'ai des journées que je faisais 10 000 piastres. C'est dépendamment de l'argent que tu as investi. Mais une fois que tu vois, surtout si tu n'es pas habitué à ça dans ta vie...
Tu veux juste le voir le lendemain et le lendemain. Et quand ça fait 8, ça. 9, 10, 12 jours que tu regardes, et exact. À tous les jours, ça fait plus 15 000.
À chaque fois que tu refresh.
Ouais.
Ah, puis t'es addict à ça, là, tu refresh ton portfolio tout le temps.
Puis tous les matins, tu te réveilles, puis quand je dis plus 15 000, plus 20 000, plus 30 000, je parle pas, ça s'accumule. Non, nouveau matin, nouveau plus 20 000. Nouveau plus 30 000, puis ça fait ça pendant des fois des 12, 14, 15 jours, 30 jours de suite. T'es plus neutre là.
Non, c'est ça. Ça vient jouer dans ta tête, dans tes émotions puis tout. Puis moi, c'est là que je me suis fait avoir. Là. Mm. Je me suis fait avoir solide. Puis vu en même là que j'avais.
J'ai Alex dans la toilette. Yes.
Peut-être qu'il y a du monde qui sont capables vraiment de rester neutre, mais je pense que si tu te mets à faire autant d'argent...
Oui, mais avec de l'expérience, oui, mais ça, n'importe qui commence à dire rester neutre, non, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, tu vas voir, c'est très, très, très émotionnel, le trading. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui gère bien ses émotions, puis j'étais comme, ah, c'est chill, pour moi, ça va être facile. Ouais, c'est ça.
Au début, même en crypto, on s'en parlait, puis tu étais comme, non, mais j'ai bien mes émotions, puis je suis comme,
All right.
Mais c'est pas d'être neutre, en fait. Je pense que ça, c'est un autre misconception.
D'être conscient.
Exact. Parce que c'est impossible d'être neutre. Parce que être neutre, ça voudrait dire, j'ai pas l'émotion. Comme j'ai pas du tout l'émotion, je la ressens pas. Et ça, c'est un autre défi, c'est que les gens essayent d'être neutres, les gens essayent de contenir l'émotion. Mais quand tu te bats contre, le courant finit par t'emporter là. Tu peux pas nager contre le courant toute ta vie. Impossible. À un moment, tu vas juste te fatiguer. Il faut que tu ailles avec le courant. Mais il faut que tu l'acceptes, le courant. Tu sais, il y a deux façons de prendre le courant. Un, parce que t'es fatigué puis t'es en train de te noyer. Ou deux, tu mets une bouée, tu fais l'étoile de mer. Puis tu laisses le courant t'apporter sur le rivage. So, c'est pas d'être neutre. Être neutre, c'est comme essayer de... C'est un peu une façon de pas... De comme dire non, je l'ai pas. Non, en fait, c'est d'être conscient. C'est de l'intelligence émotionnelle. De se call out soi-même. Holy shit, je suis en train d'avoir telle émotion. Est-ce que c'est bon ça? Non. Comment je pourrais le changer? Comment je pourrais faire attention? C'est pas d'être neutre ou de bloquer l'émotion. C'est de les reconnaître. Parce que comme vous avez dit, c'est impossible de pas être émotionnel. Alors si tu dis, moi, je vais être neutre, non, tu le seras jamais. Sois conscient de tes émotions.
Et réactif.
Par rapport à ces émotions-là. Holy shit, je suis en train d'avoir telle émotion. Moi, des fois, je suis en train de faire des lives. Et sur les lives, je le call out. Je le dis, vous l'avez peut-être déjà entendu. Alors là, je vais faire ça ici, guys, parce que je suis émotionnel. Et dans ma tête... C'est rendu comme naturel de le dire à voix haute. Parce que dès que tu le dis à voix haute, tu l'acceptes, on dirait. So, des fois, je suis en train de trader, investir. Je suis comme, yo, ça, c'est trop bon. Je suis fucking émotionnel. Puis les gens vont être comme, what the fuck? T'es pas censé pas être émotionnel? Exactement. Et c'est pour ça que je le dis à voix haute. Parce que le dire à voix haute, c'est comme accepter et l'entendre soi-même. OK, mais je ne vais pas être émotionnel, je vais faire attention.
Ça t'amène surtout un niveau de conscience supérieur. Là.
Exactement.
Parce qu'être conscient, puis juste faire comme, oh, OK, en ce moment, je suis émotionnel, puis le dire à voix haute, surtout devant des étudiants.
Ouais, moi, je le dis à voix haute.
C'est une autre game, là.
Le dernier, je pense qu'il y a deux lives, là, où le dernier live, je suis en train de travailler dessus, je suis comme, ça, je veux que ça aille là, parce que je suis fucking émotionnel.
C'était avec Chen Link, je pense.
Avec Chen Link. Je suis fucking émotionnel. Mais tu le dis en blague, mais en même temps, c'est comme... Tu l'attestes à toi-même. Puis après, tu dis, comment, je vais pas faire ça. C'est vrai que c'est émotionnel.
Donc, sur ceci, Alex, j'espère te revoir sur nos prochains épisodes.
Ben oui, j'espère aussi. Merci
aussi,
de m'avoir invité.
Il y a ce qu'on appelle l'investissement asymétrique. Ben, ça aurait été bon.
Est-ce que ça va être le sujet du prochain épisode?
Partie
2. Il y a juste une façon de le savoir. On se voit sur le prochain épisode.
Yes, yes sir.
Rejoignez le groupe Facebook, laissez un 5 étoiles sur ou la note que vous voulez pour ne pas vous influencer sur le nombre d'étoiles à laisser, mais sur
5 étoiles ou on te casse les genoux.
Spotify et Google. Merci. Peace.
Hey.